Avec lui, tu veux rester poigné dans le trafic. Avec lui, jamais besoin de reprise. Le but est tout le temps bon. Pour tout savoir, voici Martin Leclerc.
Officiellement, bonne année et bon matin, Martin. Comment vas-tu?
Bonne année, Greg. Bon matin aussi. Bon matin à tous les auditeurs qui nous écoutent. Puis, écoute, il y a beaucoup de sujets. Il y a beaucoup de choses à discuter ce matin. Ça commence fort. Ça commence l'année.
On ne peut pas faire autrement. Le Canadien, hey, ça avait pris depuis le mois de mars pour qu'on gagne 3 matchs de suite. On vient le faire 2 fois en 1 mois. Quand même pas pire.
Oui. C'est la 4e victoire qui est difficile à aller chercher. Le Canadien s'est souvent cassé les dents sur la 4e victoire consécutive, mais disons que les astres sont bien placés pour ce soir.
Ben oui, puis on va suivre ça, c'est dès 8h. On en reparlera vers la fin de ton intervention, puis c'est pas pour rien qu'on t'a fait rentrer un petit peu plus tôt, parce qu'effectivement, on en a beaucoup à dire. Le Canadien qui va très bien en ce moment, ça c'est la bonne nouvelle. Mais le Canada qui est éliminé pour une 2e année de suite, tu as certainement entendu Ali et moi en discuter là, il y a quelques instants. Oui. Mais il y a... Non, je pense pas qu'on peut mettre la responsabilité ou l'entièreté de la responsabilité sur une seule personne, mais bien sur une pléiade de facteurs là, qui sont arrivés. Moi, je veux pas blâmer les joueurs là-dedans. T'sais, ça reste des jeunes joueurs de hockey qui sont là, mais est-ce que la sélection, le coaching... Martin, comment t'analyses tout ça?
T'as raison. Écoute, il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça, mais je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu disais tantôt sur le fait que il y a pas de problème de développement au Canada. C'est sûr que si McLean Celebrini puis Connor Bédard avaient été là, ça aurait été bien différent. Mais ça, c'est une réalité qui existe depuis toujours. On est quoi? On est à la 49e présentation du championnat mondial junior. Il y a toujours eu des exceptionnels qui graduaient dans la Ligue nationale plus rapidement, puis le Canada restait une équipe dominante au championnat mondial junior. Il est arrivé toutes sortes de choses. Premièrement, je veux juste qu'on place le portrait dans son ensemble. C'est normal qu'on ait qu'on soit une nation dominante au hockey. On a le plus grand bassin de joueurs au monde. Puis les Américains nous ont rattrapés de ce côté-là. Puis on le voit là, quand les deux équipes s'affrontent, les États-Unis, c'est devenu les Américains sont devenus les grands rivaux du Canada sur la scène du hockey. Ils ont dépassé la Russie de ce côté-là. Mais on a un problème. On a un problème de développement au Canada. Ça a commencé il y a une vingtaine d'années. On était, je pense, au Québec, les premiers à commencer à ressentir ça, que notre système de développement est bâti de façon à ce que on fait jouer les meilleurs joueurs. On a tellement de joueurs qu'on fait jouer les meilleurs les uns contre les autres à partir de l'âge de 12 ans. Puis à un moment donné, au sommet de la pyramide, on pige les meilleurs puis on dit, ben ça, c'est notre élite. Alors que les pays scandinaves, par exemple, ont pris une approche pour rendre le système de hockey mineur plus amusant pour les enfants, pour enseigner les habiletés, développer les habiletés à l'âge de 9 ou 10 ans, parce que les habiletés fines, je parle là, de développer la qualité des mains, etc., la vision du jeu. Ils ont pris une approche plus scientifique, ont investi plus dans le développement de leurs entraîneurs. Les Américains ont pris une approche scientifique aussi. Ils ont un programme national. Ils ont autant de joueurs que nous, mais eux, ils placent leurs meilleurs joueurs dans un programme national à partir de l'âge de 16 ans, puis ils les exposent à la compétition internationale, les font jouer contre des joueurs plus vieux. Et nous, on fait du hockey un peu de la même façon depuis 70 ans au Canada. Fait que, tu sais, c'est le bon vieux système. On a une business qui s'appelle la Ligue canadienne de hockey. Puis on fait jouer les meilleurs les uns contre les autres, mais il y a pas vraiment de pensée scientifique derrière ça. C'est juste de faire jouer les meilleurs talents contre les autres. Puis on voit dans la Ligue nationale que la part de marché des joueurs canadiens s'amoindrit d'année en année. Là, il y a de plus en plus d'Américains, il y a de plus en plus de joueurs qui viennent de partout. Puis on perd des parts de marché de façon importante. Et ça commence à se répercuter, ça commence à se voir, ça commence à être visible au championnat mondial junior. Dans ce tournoi-là, c'est pas normal qu'un pays où tu as 500 000 joueurs de hockey se fassent battre par la Lettonie. Puis c'était beau de voir ça, là, mais il y a 3 700 joueurs de hockey mineur en Lettonie. Là. C'est à peu près la somme des associations de hockey mineur de Blainville, Terrebonne, puis de Lachenaie sur la rive nord de Montréal. Là. C'est pas normal que ce bassin de joueurs-là batte le Canada au championnat mondial junior. C'est non. pas normal que les Allemands, où il y a à peu près 16 000 joueurs, parviennent à jouer des matchs extrêmement serrés à la vie et à la mort contre le Canada. Puis hier, la République tchèque, il y a 20 000 joueurs. C'est la Tchéquie maintenant, mais en Tchéquie, il y a 20 000 joueurs. Et c'est depuis 3 ans, c'est à la vie et à la mort. Là. Victoire difficile il y a 3 ans en finale contre la Tchéquie, puis élimination 2 années de suite en quart de finale contre la Tchéquie. Fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre système. Et avec l'équipe qu'on a vue cette année, ben on a vu, tu sais, il y a eu des problèmes au niveau de la sélection. Je pense qu'il y a eu des problèmes au niveau du coaching. Et je suis d'accord avec toi de ne pas mettre la faute sur les joueurs. Les gars qui étaient là ont donné tout ce qu'il y avait à donner, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre système national.
Écoute, je me suis mal exprimé ce matin, je crois, suite à ton point. Le problème de développement dans ce que tu amènes, c'est impossible d'être en désaccord avec toi, là, est tout à fait flagrant. On n'a pas un manque de talent, par contre, au Canada. Il ne peut pas avoir un manque de talent au Canada. Est-ce que c'est la mentalité à ce moment-là? On l'a vu pour moi, qui, tu sais, tu suis ça depuis des décennies, Martin, de voir qu'on arrive avec la mentalité de favori au Canada, avec cette mentalité de la vieille école, là. Je pense que je peux le dire ainsi. Puis tu l'as dit, on se fait battre par... On a reçu ici Artis Abols, l'entraîneur-chef de la délégation de la Lettonie, qui nous expliquait la situation de ses joueurs. Ça fait 3 ans, dû à la situation Russie-Ukraine, ça fait 3 ans que les joueurs ne peuvent pas jouer chez eux. Il y a eu la COVID. Par la suite, ces joueurs-là doivent aller dans des ligues en Finlande, en Suède, s'expatrier en Amérique du Nord pour pouvoir se développer. De ce fait, ils ne sont pas capables de jouer ensemble. Ils arrivent ici, battent le Canada qui, j'ai l'impression, avait la mentalité de « Non, non, nous, on sait comment jouer au hockey. » Là, puis quand on va arriver dans les rondes payantes, là, c'est là que ça va payer justement et que la façon qu'on a bâti l'équipe va gagner. J'ai l'impression que les joueurs n'ont pas été coachés non plus. Comment Dave Cameron, je m'explique mal cette intervention-là, peut-être que toi, tu as une meilleure analyse, là. On lui a demandé « Hey, vous n'avez pas beaucoup pratiqué. Les joueurs sont brûlés et c'est difficile d'aller pratiquer avec des joueurs qui sont justement ça, exténués, brûlés, plus capables. » Comment ça se fait que des joueurs de 18-19 ans qui sont supposés être les meilleurs au pays, la crème de la crème de ce nombre de joueurs-là de hockey qu'on a partout, sont vidés et pas capables de pratiquer durant un tournoi de cette envergure-là?
Ouais. Écoute, tu sais, encore dans ta question, il y a beaucoup de...
Ouais, je suis désolé, j'ai fait un petit monologue.
Non. C'est bien correct qu'on jase. Puis il faut qu'on parle d'un sujet qui est extrêmement complexe en une quinzaine de minutes ou peut-être moins parce qu'on a quelques sujets ce matin. Mais si on résume, si on regarde ce que le Canada a fait dans ce tournoi-là, là, les sélectionneurs, les gens qui sont responsables de l'équipe, pigeaient dans le plus gros bassin de joueurs au monde, puis ils ont accouché d'une équipe qui était indisciplinée puis qui n'était pas capable de marquer des buts. Comment on est arrivé là? Écoute, c'est complexe. Moi, il y a une chose qui m'a fait sursauter. Il y avait 14 joueurs de l'Ontario, 14 joueurs de la Ligue junior de l'Ontario dans l'équipe cette année. On avait un coach de l'Ontario. J'ai fait des études sur ce sujet-là, ça fait une vingtaine d'années, là, puis c'est une chose qu'on voit arriver souvent au Canada. Quand il y a une surreprésentation d'un groupe, 2 fois sur 3 ou 3 fois sur 4, c'est un entraîneur de cette ligue-là qui dirige l'équipe. Comment on a pu arriver avec 14 joueurs de la OHL alors que la Ligue de l'Ouest a très bien fait au repêchage au cours des 2 dernières années, au repêchage de la Ligue nationale aussi. Ça, c'est une chose que j'ai remarqué. La qualité des choix qui ont été faits, j'ai un ami qui est recruteur d'une équipe de la Ligue nationale qui était au camp d'entraînement d'équipe Canada, qui a vu tout le camp d'entraînement. Puis pour lui, c'était clair que le meilleur attaquant du Canada C'était Beckett Seneca, le troisième choix au total au dernier repêchage par les Ducks d'Anaheim. C'était clairement le meilleur attaquant. Ils l'ont retranché, ils l'ont même pas gardé au sein de l'équipe. Il y a eu probablement une erreur qui a été faite là, mais tu retranches un gars comme Beckett Seneca qui est une machine offensive, puis tu diriges une équipe qui a marqué seulement 10 buts dans la ronde préliminaire, puis sur ces 10 buts-là, il y en a eu deux dans un filet désert, puis un qui a frappé la bande, qui a frappé la bande derrière le filet, puis qui est revenu, qui a frappé le gardien, qui est entré. Là. Fait que c'est une équipe qui avait de la difficulté à marquer des buts, puis on a ignoré beaucoup de talents offensifs. Zane Parekh, tu sais, si tu veux faire des... Au hockey junior, tu peux pas gagner si tu marques pas beaucoup de buts. Il se commet tellement d'erreurs durant les matchs. Tu peux pas bâtir une équipe en te disant on va gagner 2-1 ou 3-2 à tous les soirs. C'est impossible. Puis pour faire circuler la rondelle, Zane Parekh, le 9e choix au total par Calgary au dernier repêchage, 41 points à 31 matchs avec Saguina. Il a pas été pris dans l'équipe. Carter Yakemchuk, qu'on a vu avec les Sénateurs d'Ottawa durant le calendrier préliminaire de la Ligue nationale, c'est un gars qui a un tir incroyable, un gros bonhomme, un défenseur offensif qui a été ignoré aussi. L'autre affaire qui n'était pas normale à mon sens, c'est si tu bâtis ton équipe et que les joueurs dominants en attaque, ce sont des gars de 17 ans, comme c'était le cas avec Matthew Schaefer qui s'est blessé là, dans la ronde préliminaire, mais puis Gavin McKenna, t'as un problème. C'est un tournoi sur la scène mondiale avec les meilleurs joueurs qui proviennent de partout dans le monde, des joueurs de 19 ans. Il y a une maudite différence entre un joueur de 19 ans et un joueur de 17 ans là, dans cette phase de développement-là. Fait que si tu piges dans le plus gros bassin de joueurs au monde, puis que parmi tes joueurs dominants, tu as des gars de 17 ans, alors que ça devrait être des gars de soutien qui sont là pour se familiariser avec le format du tournoi puis devenir les leaders de l'équipe là, dans les années suivantes. Pose-toi des questions, tu as un problème. Puis là, on ajoute à ça le problème de discipline. Moi, j'étais abasourdi de voir à plusieurs reprises durant le tournoi des séquences de jeu où il y avait des gars complètement libres, là, puis des joueurs qui avaient une moins bonne option. La moins bonne option, c'est de tirer au filet, puis les gars tiraient au filet pareil. Il y avait beaucoup d'individualisme dans cette équipe-là. Des gars qui essayaient de traverser la patinoire tout seul. Des pénalités égoïstes, inutiles, on en a vu beaucoup aussi. Puis ça, c'est une question qui n'a pas été abordée par Dave Cameron avant qu'on soit à la veille du match contre la Tchéquie, le match de quart de finale. Je pense qu'il y a eu un manque aussi là-dessus, puis s'ajuster.
Il y a Repkov qui a payé le prix parce qu'il y avait eu deux pénalités le match d'avant, mais encore là, tu as besoin de début, puis tu l'enlèves de l'alignement. Je pense qu'il y en a plusieurs qui se grattent encore la tête de cette décision-là.
Il y a eu plusieurs, tu sais, puis rarement, là, les gens qui m'écoutent sur nos ondes ou qui me lisent, là, ça arrive très, très rarement que je vais critiquer des entraîneurs parce qu'ils ont plus d'informations que nous autres, sont à l'interne, ils dirigent leur équipe, ils l'ont choisi. Mais de l'extérieur, il y a des ajustements, il me semble, qui se faisaient pas. Gavin McKenna, c'est un des seuls joueurs de cette équipe-là qui rendait ses coéquipiers meilleurs autour de lui, là, qui voit le jeu, qui donne la rondelle, qui a un sens offensif extraordinaire. Il a été promu au sein du premier trio dans le milieu du match d'hier. Là, c'était le cinquième match d'équipe Canada junior. Fait qu'il y a des ajustements qui ont été longs à faire. Puis tu parlais du fait que l'équipe n'a pas pratiqué. Après la défaite contre les États-Unis, 31 décembre, il n'y a pas eu de séance d'entraînement du Canada. On s'entend, quand tu fais une séance d'entraînement, tu n'es pas obligé de tuer les joueurs, là, de leur faire toucher la glace 40-45 minutes, de revoir ton avantage numérique, de faire circuler la rondelle un peu, que les gars se sentent bien. Mais ils n'ont pas pratiqué du tout entre la défaite contre les États-Unis puis le match contre la Tchéquie. Il n'y a même pas eu d'entraînement matinal. Ça aussi, c'est le genre de situation qui fait sourciller là, de l'extérieur.
C'est, écoute, comme tu dis, on en a long à dire. Pour moi, est-ce qu'on s'inquiète du talent qu'on a au Canada? Il faut s'en inquiéter peut-être à moyen long terme dans les systèmes qu'on a. Tu l'as dit, là, les États-Unis qui font très bien en termes de développement présentement. Quand on regarde ce qu'on va voir, par exemple, aux Olympiques l'an prochain et les prochains tournois, est-ce qu'on doit changer notre mentalité au Canada pour amener le meilleur talent? Il y a combien? 3-4 choix top 10 qui n'ont pas été choisis pour cette équipe-là. T'sais, tu parlais de Beckett Seneca. Je veux dire, il n'y a pas 19 ans, mais comment... si tu passes sur un, deux autres, je pense qu'on peut l'expliquer, là, mais tous ces joueurs-là, au complet, qui sont pas assez bons pour faire l'équipe, je veux dire, parce qu'on a clairement une philosophie et une identité. Je veux dire, peut-être que le problème, c'est la philosophie et l'identité, puis peut-être pas le talent qu'on a ici, là.
Ouais, moi je pense que dans la sélection, il y a eu un problème majeur, puis dans l'exécution aussi, dans le coaching du personnel là, que Dave Cameron avait sous la main, puis t'as tout à fait raison. À la fin des émissions, là, c'est beau dire ils ont perdu, puis ça fait 2 années de suite que le Canada se fait éliminer en quart de finale, puis se prendre la tête à 2 mains, puis dire voyons qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait que le Canada a moins de succès qu'avant dans cette tranche d'âge là, on s'entend, c'est t'sais, on est le seul pays au monde où le hockey junior c'est une business, où où on vend des droits de télévision, où il y a énormément d'argent, de capitaux qui sont investis dans cette catégorie d'âge-là. Et la question qui tue, c'est ça, c'est qu'est-ce que Hockey Canada va faire avec ça, avec ce qui est en train de se passer? Moi, je pense que Hockey Canada n'a aucun contrôle sur ce qui se fait au hockey junior ou en matière de développement au Canada. Ce sont les provinces qui s'occupent de développer au hockey mineur, les fédérations provinciales, puis Hockey Canada fait des équipes nationales en pigeant dans le bassin joueur. Mais qu'est-ce qu'on va faire comme pays pour dire là, on commence à se cogner la tête sur un mur sur la scène internationale. Qu'est-ce qu'on va faire pour améliorer notre système de hockey, pour mieux développer nos joueurs, pour faire en sorte qu'on fasse plus appel à la science pour structurer notre hockey, puis pour mieux encadrer nos joueurs, pour qu'ils soient plus performants quand ils arrivent sur la scène internationale. Les Suédois l'ont fait, ces réflexions-là. Les Finlandais l'ont fait. Les Slovaques l'ont fait, qui est un petit pays de hockey, puis qui commence à bien faire sur la scène internationale. Puis je parlais aux dirigeants de la Fédération tchèque l'année passée, puis ils l'ont fait, cette réflexion-là aussi. Quand ça va pas bien sur la scène internationale, c'est un symptôme qui dit là, réveille-toi parce que il y a un virus quelque part, là, puis il faut faire quelque chose pour soigner le patient parce que sinon il va être plus malade et puis la situation va s'aggraver. Puis c'est pas normal que ça arrive au Canada.
Imagine la grogne. C'est tellement important le hockey au Canada. Puis on va passer aux Canadiens tout de suite parce qu'il faut absolument parler. Mais imagine la grogne au Canada, Martin, si l'an prochain le même sort est réservé et on ne fait aucun changement. Par exemple, on arrive, on va dire okay, on va avoir des joueurs plus offensifs, par exemple. Là, on va les inviter. Mais encore là, est-ce que, par exemple, Beckett Seneca va être dans la Ligue nationale l'an prochain? Je veux dire, ces joueurs-là, est-ce qu'ils vont avoir été promus dans la Grande Ligue? On n'aura pas accès à ce talent-là. Et dans notre processus de développement, il n'y a aucun changement, puis qu'on se fait encore éliminer en quart de finale. Là, je pense que les gens au Canada vont absolument demander des changements. Là. Je veux dire, le mood ne sera pas le même que ce qu'on a ici présentement, qu'on se dit « Ouais, on n'a peut-être pas choisi les bons joueurs. Peut-être qu'il faudrait effectuer certains changements, voyant que tout le monde performe mieux que nous autres. » Là, tous ceux qui ont fait les changements de philosophie, comme tu les as bien démontré depuis le début de la conversation, le font, sauf nous autres, parce que au Canada, historiquement, on est les meilleurs. Ouais, à un moment donné, tu peux pas t'asseoir là-dessus non plus.
Puis c'est ça, quand je parle aux dirigeants des autres fédérations, des fédérations suédoises, finlandaises, des fédérations européennes, les Allemands, ils disent tous la même chose. Ils disent « Ah, vous autres au Canada, vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de développer les habiletés à l'âge de 9-10 ans des joueurs ou de penser à des programmes puis penser à ce que vous pouvez faire de mieux. Vous avez tellement de joueurs qui finissent toujours par en sortir des bons au bout, aussi, au bout de l'entonnoir. » Mais on voit que c'est pas vrai, là, parce que si tu as un grand bassin de joueurs et que tu fais juste laisser ça au roi de la montagne, là, tu les laisses tous se battre entre eux, puis tu dis au sommet, il va sortir quelque chose. Les autres pays qui font appel à la science et qui font attention au développement de leurs athlètes, ils commencent à jouer des matchs très, très serrés contre le Canada. Fait qu'on se fait rattraper. On s'est fait rattraper. Il y a plus juste un rival ou deux dans le monde pour le Canada. Là, il y en a plusieurs. Toutes les prochaines années vont être très difficiles, j'ai l'impression.
Ah, ben on peut plus dire que c'est une exception, Martin, là, c'est certain. C'est la deuxième année de suite qu'on se fait sortir par la Tchéquie en quart de finale. Et je l'ai rappelé en début de tournoi, ça aurait pu être le même sort l'année de la médaille d'or en 2022. Là. Ça a été un but en prolongation de Connor Bedard. D'ailleurs, je pense qu'on a encore l'extrait de la description de ce but-là, là, mais si ça avait été, si ça avait, tu sais, ça aurait pu virer.
Ça aurait pu être trois années de suite.
Exactement, ça aurait pu être trois années de suite. Arrangeons-nous pour réorganiser tout ça. Et peut-être, écoute, je fais un lien boiteux, semi-humoristique. Peut-être appeler Kent Hughes pour voir comment on fait ça, une reconstruction. Parce que lui, il a de l'air bien parti, là, finalement. Au début de l'année, on a eu un mauvais début de saison dû à plusieurs facteurs également. Et là, présentement, au moment où on se parle, on est à 3 points des séries et on est exactement au même point du nombre de points qu'on avait la saison précédente en donnant l'équipe, cette fois-ci, aux jeunes, aux gens qu'on a sélectionnés dans notre organisation.
Oui, même nombre de points que l'année passée, après le même nombre de matchs, mais après un début de saison catastrophique, il y a eu un redressement incroyable depuis la mi-novembre chez les Canadiens. Puis je sais pas comment c'était dans tes parties du jour de l'an, là, mais moi, tout le monde, chez nous, tout le monde parlait du Canadien. On dirait que il y a beaucoup de virus qui se promènent dans le temps des fêtes, mais là, il me semble qu'on sent la fièvre du hockey de revenir tranquillement. Puis on regarde la situation, si on prend une photo en ce moment, là, clairement, les dirigeants du Canadien puis Martin Saint-Louis vivent leur meilleur moment depuis qu'ils sont arrivés à Montréal pour entreprendre la reconstruction de l'équipe. Il y a beaucoup de bonnes choses qui se passent. Tu regardes la position du Canadien au classement présentement, c'était de la science-fiction. Là. Il y a 6 semaines, ce qu'on se dit là ce matin, c'était de la science-fiction, mais le Canadien est à 3 points des séries éliminatoires, 2 matchs en main sur quoi? Il y a Philadelphie, Pittsburgh et Columbus devant eux, si ma mémoire est bonne, là, qui les sépare d'Ottawa.
On gagne ce soir, on était à égalité avec Pittsburgh, c'est au 20e rang de la Ligue nationale. Et on a dépassé Columbus, Philadelphie, Seattle, Anaheim, Détroit, les 2 équipes de New York, Buffalo, San Jose, Nashville, Chicago.
Et c'est pas juste, tu sais, il y a des choses qui arrivent dans une saison de hockey ou dans une saison de n'importe quel sport professionnel qui sont momentanées. Là, il y a un petit pic de performance, puis ils se sont peut-être replacés, puis ça s'écroule. Mais là, c'est une tendance lourde, pour reprendre l'expression de Bernard de Rome, là, la tendance, ça se maintient. Là,
la tendance se maintient.
Depuis la mi-novembre, le Canadien est dans les 5, 6, 7 meilleures équipes de la Ligue nationale de hockey. Depuis que l'équipe est complète, depuis le début décembre, là, le Canadien est 5e dans la Ligue nationale. Et c'est une longue période de temps. Il y avait des équipes, des adversaires très coriaces là-dedans. Et le nerf de la guerre, c'est si le Canadien continue à bien jouer défensivement, va être capable de tenir son bout. Et peut-être, la déclaration du mix du tournoi de golf au mois de septembre, elle a été tournée en dérision à gauche, à droite. Mais là, on voit que c'est en train de se faire, ça. Et la pire chose qui pourrait arriver pour nuire à ce plan-là, c'est que le Canadien se prenne un râteau en pleine face à soir à Chicago, là. Après avoir si bien fait durant le périple en Floride puis à Vegas, Chicago, c'est un endroit où le Canadien a eu du succès. Là, quoi, 4 victoires à ses 5 derniers matchs là-bas. Ça va très, très mal chez les Blackhawks. Ils ont perdu leurs 3 derniers matchs par 4 buts et plus. C'était pas arrivé depuis 1987. Cette équipe-là s'est pas redressée depuis qu'il y a eu un changement d'entraîneur. Ça continue d'être dans les bas-fonds.
5 défaites de suite et un Taylor Hall qui pleurait presque après la classique hivernale en disant c'est impossible qu'on fasse vivre ça à nos partisans. Connor Bedard lui-même qui sort dit écoutez, je m'excuse, je suis désolé pour ce qu'on vous montre comme spectacle. Eux autres s'en sont pris un râteau dans le visage. C'est peut-être ça aussi que le Canadien va avoir à affronter ce soir justement une équipe qui ne voudra pas se faire le coup encore une fois. Là.
Ouais, mais tu sais, moi je trouve que c'est un test. Là, la fameuse 4e victoire de suite, le Canadien a eu vraiment beaucoup. On est arrivé souvent à 3 au cours de la saison dernière, au cours de la dernière année. Quelques fois à 3, puis on a toujours eu de la misère à aller chercher la 4e, mais là, c'est le temps d'avoir l'instinct du tueur. Là. Il faut leur marcher dans le visage aux Blackhawks, puis il faut rentrer à Montréal avec cette 4e victoire de suite-là et se positionner pour le moment, on entre dans les dog days of winter, là, la période difficile de la saison où tu te souviens plus de la fébrilité du début du calendrier, tu vois pas la ligne d'arrivée, puis il faut que tu continues à jouer de façon un peu robotique, puis continuer d'aller chercher des points au classement. si le Canadien va chercher cette victoire-là à Chicago, ça va être une période effervescente pour le Canadien. Là, pendant qu'il y a plein d'équipes qui vont être éteintes, le Canadien va être en train de lutter pour réaliser quelque chose qui était impensable il y a 5 ou 6 semaines. Fait que c'est une période très, très intéressante. Écoute, faut leur rendre ce qui leur revient. Là. Ces gars-là, ces joueurs-là se sont pris en main. Cette équipe-là s'est prise en main et est en train de faire quelque chose qui était pas envisageable il y a très, très peu de temps. Là.
Martin, merci beaucoup. Ça a été un grand plaisir de faire de la radio avec toi pour la première fois, cette collaboration-là. J'espère que ça deviendra un classique annuel. Maintenant, je te remercie beaucoup. Bonne année. On se voit très bientôt également au Centre Bell. Et encore une fois, je te remercie.
Ça a été un grand plaisir, Greg. Je sais qu'on a dépassé le temps, mais c'était intéressant.
C'est correct. Je me suis gâté quelques minutes de plus avec Martin Leclerc ce matin.
Ça a été bien le fun de travailler avec toi puis Oli, puis on se reprend.
Ben
n'importe quand, ça va me faire plaisir.
À très bientôt. Merci beaucoup.
Salut.
Martin Leclerc.